Gomez.
Merci Sébastien Duhamel. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Après le Niger et le Burkina Faso en début de semaine, hier, le Mali a également annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces trois pays, dirigés par des militaires, étaient suspendus depuis les coups d'État qui ont renversé les présidents élus. Au nom du souverainisme, ils se sont détournés de la France en mettant fin à leurs relations diplomatiques, à leurs relations militaires avec Paris. Ils se sont ensuite retirés de la CDAO, l'organisation ouest-africaine, qu'ils accusent d'être inféodés à la France, et ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour renforcer leur coopération en matière de sécurité et de développement. Et c'est également au nom d'une politique souverainiste que ces trois pays ont donc décidé de claquer la porte de l'OIF. Alors, êtes-vous surpris par cette décision? Quelles peuvent être les conséquences de ces retraits? Et c'est l'occasion, en cette semaine de la francophonie, d'élargir le débat à l'action de la France. Francophonie, l'organisation répond-elle à vos attentes? 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Il y a par exemple Abdoulaye qui nous écrit sur WhatsApp, il est à Bamako, il nous dit « Nos pays étaient déjà en rupture psychologique avec l'OIF, ce n'est donc pas une surprise, mais cette décision isolera davantage nos pays ». Bonjour Serge.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, et vous disiez au Standard, le moment est venu pour l'OIF de faire une introspection.
Absolument, mais peut-être Juan, en une seconde, permettez-moi de souhaiter un excellent anniversaire à l'ensemble des locuteurs francophones dans le monde, puisque l'OIF aura 55 ans demain,
oui. Le 20 mars. Bon, ben voilà. Donc, on souffle 55 bougies alors.
Alors bon, du coup, merci aussi pour le cadeau d'anniversaire de l'ensemble des pays de l'AES. Je perçois leur retrait comme un cadeau d'anniversaire, justement.
Pourquoi ?
Et, ben, j'estime que c'est un message qui est envoyé à l'OIF pour, comme vous l'avez dit, saisir l'opportunité et faire son introspection, et surtout sa introspection en vue de redéfinir sa stratégie pour les années à venir, en sorte d'éviter que d'autres retraits se manifestent.
C'est-à-dire, que reprochez-vous, Serge, concrètement, à l'OIF ?
Alors si on s'en tient au motif, bon, les trois pays traversaient un moment de suspension, et je crois que c'est lié aux crises politiques qui ont lieu dans ces pays-là, des crises liées au coup d'État, puisque ces trois pays sont actuellement dirigés par des régimes politiques.
Mais l'OIF a eu raison de taper sur la table au moment de ces coups d'État en disant il faut un retour à l'ordre constitutionnel au plus vite ?
Alors, ce qui me gêne dans l'approche de l'OIF, c'est que pour l'instant, sur le plan politique, l'Afrique francophone souffre de deux formes de crise. Il y a effectivement les coups de force, très souvent du fait des armées, mais aussi, il y a aussi les manipulations constitutionnelles qui parfois provoquent même des dommages plus importants que des coups d'État militaires. Donc pour moi, l'OIF devrait rester dans cette dynamique-là, mais en ayant une vue globale sur tout ce qui est source de crise politique dans nos pays.
C'est-à-dire, soyez plus précis, Serge, j'ai comme l'impression que je suis obligé de vous écouter, pour ne pas dire lire entre les lignes. Autant elle condamne les coups d'État quand ce sont des militaires qui les font, autant j'ai l'impression que vous reprochez à l'OIF de ne pas être suffisamment ferme lorsqu'il y a tripatouillage de constitution et donc coup d'État constitutionnel.
En effet, et l'OIF demande en permanence le retour à l'ordre constitutionnel. Mais de vous à moi, Juan, que ce soit à Yaoundé, à Abidjan, je citerai plein d'autres exemples comme ça, où il y a un certain ordre constitutionnel qui prévaut. Mais est-ce que pour vous, vraiment, ça fait démocratie que de voir des chefs d'État qui sont là depuis 30, 40, voire plus, et que donc la position de l'OIF est inaudible sur ces questions-là? On ne peut vraiment pas, à mon sens, parler d'ordre constitutionnel lorsque quelqu'un, une famille est là depuis plusieurs décennies.
Oui.
Et voilà. Donc, quelque part, il faut que l'OIF travaille à sortir de cette forme de cécité politique et une vue d'ensemble sur les problématiques démocratiques.
Ouais. Alors, il y a certains auditeurs qui nous disent sur les réseaux sociaux l'OIF est devenu trop politique. Baber, par exemple, estime que l'OIF s'est éloigné de son objectif principal, qui est la promotion de la culture française. Depuis quelque temps, dit-il, sa mission semble devenue floue. Tantôt, elle s'engage dans le domaine culturel, tantôt dans la vie politique et même dans le sport, nous dit cet auditeur. Amani nous écrit du Niger. L'OIF est devenu un organe d'ingérence, de diktat dans la gestion de nos pays. C'est l'OIF qui a suspendu le Niger juste après les événements du 26 juillet. Eh bien voilà, maintenant, nous quittons définitivement cet instrument de chantage, affirme cet auditeur nigérien. Bonne journée Serge, merci de nous écouter à Yaoundé. Bonjour Albert.
Bonjour, bonjour Juan.
Comment prenez-vous la décision de ces trois pays?
Je ne dirais pas que je comprends leur décision, mais je pense qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, notamment avec le Niger qui a toujours été intransigeant vis-à-vis de la France depuis l'arrivée du nouveau président, Thierry, au pouvoir ouais. Un coup d'État. Alors, ce que je prends en compte l'auditeur qui a écrit sur les réseaux sociaux, vous venez de dire, pour dire par exemple que l'OIF s'est éloigné pendant des années de sa vocation, disons, de ses idéaux fondamentaux, parce qu'à l'origine, c'était beaucoup plus culturel, éducationnel, et beaucoup plus quand même autre chose que même l'environnement. Il y avait tout ça, autre chose en dehors de la politique. Je me rappelle, par exemple, moi qui suis ici, j'ai été boursier de l'OIF. Mm-hmm. Deux fois boursier de l'OIF au Sénégal et à Yannick Moïse. Bon, j'étais pas parent de politicien, j'étais pas...
Oui, mais enfin, les bourses de l'OIF existent toujours, Albert.
Existent toujours. Mais aujourd'hui, je pense quand même que le fait, par exemple, pour l'OIF, de faire en sorte que après le coup d'État, le Niger, par exemple, c'est le cas de Niger qui me préoccupe le plus, le Niger ne soit plus membre de l'OIF pour des raisons de coup d'État, alors qu'au même moment, oui. on réintègre la Guinée-Conakry. Alors qu'il n'y a pas encore eu d'élection, il n'y a pas eu de gouvernement civil, oui. Il y a dictature continue.
Alors effectivement, à l'époque, ça avait surpris plus d'un auditeur, on avait eu l'occasion d'en parler ici, vous avez été nombreux effectivement à dénoncer une sorte de deux poids, deux mesures. En même temps, la démarche était quand même différente, de souvenir, les autorités guinéennes avaient dépêché à Paris une délégation, il y avait des ministres, et ces ministres étaient venus plaider leur cause devant la francophonie, en donnant des garanties que des élections se tiendraient au plus vite, en tout cas dans le courant de l'année 2025. Donc c'est ce deux poids, deux mesures, vous, qui vous interpelle, Albert. Merci en tout cas de nous écouter dans le nord du Bénin. On va repasser au standard, il y a du monde, 33 9 693 693 70. Mamadou nous suit sur les réseaux sociaux à Bamako. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan.
Je trouve intéressant ce que vous avez dit au standard. Être dans la francophonie ou pas, eh bien, ça ne changera pas grand-chose pour nous au quotidien.
Ben, la preuve, on est encore en train de parler français ce matin.
Oui.
les communiqués annonçant la sortie des trois pays a été rédigé en français. Donc, on n'efface pas, avec un coup de gomme, plus de 200 ans d'histoire, en fait. Vous voyez, je veux parler de la colonisation à la fin du 19e siècle. Qui a marqué notre rencontre avec la France et avec cette langue-là, cette appartenance, on ne peut pas l'effacer. Oui. Par contre, si on veut analyser, on va dire que c'est une suite logique de cette rupture que les trois pays de l'AES ont entamée avec l'ex-puissance coloniale, la France, depuis 2022, on va dire, à commencer par le Mali, ensuite le Burkina et le Niger en 2023. Donc c'est une suite logique de cette rupture-là qui a été marquée par le retrait des trois pays de la CEDEAO qu'ils ont accusé à l'époque.
Mais Mamadou, effectivement, Mamadou, mais justement, est-ce que vous avez compris, vous, à l'époque, lorsque la francophonie a décidé de sanctionner votre pays après le coup d'État, est-ce que vous vous êtes dit la francophonie est dans son rôle, ou au contraire, vous dites, mais de quoi se mêle-t-elle? Pourquoi une telle ingérence?
Bon, je n'ai pas d'avis particulier sur vraiment cette immixtion de la francophonie. Le Mali a librement consenti à des textes hein, qui disent que le coup d'État est interdit.
Effectivement.
Donc voilà.
Et ce sont tous les États membres de la francophonie qui ont approuvé ce qu'on appelle d'ailleurs la déclaration de Bamako, déclaration adoptée en 2000 et qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de la démocratie et de violations graves des droits de l'homme. Mamadou, donc pour vous, ça ne changera pas grand-chose. En même temps, comment voyez-vous la suite, Mamadou ?
Ben, peut-être que la suite, prochainement, ce serait le franc CFA. Qui sait ?
Le franc CFA, que le Mali se retire du franc CFA. Bon, bah écoutez, pour l'instant, le Mali, en tout cas, comme le Burkina Faso et le Niger, reste dans la zone de l'UMOA, hein, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci en tout cas de nous suivre sur les réseaux sociaux à Bamako. Ibrahim, lui, est à Ouagadougou. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous regrettez la décision prise par votre pays ?
Oui, moi je regrette tout simplement la décision parce que je disais que le Burkina Faso a certainement d'autres chats à fouetter, j'allais dire plus d'autres objectifs, d'autres priorités,
oui,
qu'un tel effet d'annonce. Voilà.
Donc pour vous c'est juste un effet d'annonce ?
Oui, à mon avis, parce qu'à partir du mois où essentiellement la francophonie, c'est essentiellement culturel, ça permet quand même de lever un peu les barrières de communication, etc. Et ça ne peut pas être évité, ça va toujours continuer.
Oui, vous êtes en train de nous dire que être dans la francophonie ou pas, comme le précisait tout à l'heure l'auditeur de Bamako, finalement, vous continuerez à parler français au Burkina et dans la sous-région par la force des choses pour faire du commerce, échanger, dialoguer avec les pays voisins qui sont francophones.
Absolument, absolument. Je ne sais pas. Je peux prendre par exemple l'exemple du Rwanda qui avait donc quitté la francophonie, mais plus tard elle est revenue. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est même le même Rwanda qui préside actuellement la francophonie.
Tout à fait.
Voilà. Mais je ne sais pas. Je ne connais pas du tout le Rwanda, mais
oui,
je me dis que les gens continuent toujours au Rwanda, même si l'anglais...
Le réseau se dégrade, Ibrahim, avec Ouagadougou, désolé, hein, vous n'y êtes pour rien et nous non plus, on est tributaires des réseaux téléphoniques. En tout cas, merci de nous suivre. Bonne journée sur place. Pierre, au Gabon, affirme que ces trois juntes sont plus dans l'éclat, histoire, dit-il, de masquer leurs échecs sur le plan de la sécurité et des dérives autoritaires. Fulbert nous a écrit sur WhatsApp, il est au Burkina Faso, il qualifie l'OIF d'instrument impérialiste et néocolonial. Adrien, vous êtes au Tchad, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Je souhaite bon ramadan à toute la communauté musulmane du Tchad et du monde entier.
Adrien, je viens de citer le commentaire de cet auditeur au Burkina Faso qui qualifie donc la francophonie d'instrument néocolonial. Est-ce que vous partagez, vous, cette position ?
Je ne partage pas cet avis. Juan, il faut savoir que l'OIF comporte plus de 80 États membres qui ont accepté de signer cette charte avant d'y adhérer.
Oui.
Aujourd'hui, le Mali, les trois pays que vous venez de citer, décident de quitter. Mais la question que moi je me pose, désormais, l'administration de ces trois pays va travailler dans quelle langue ? C'est la question que je me pose.
Mmh.
Parce que l'OIF a su quand même faire la promotion de la langue française dans cet État, ça fait des années. Conséquence, ces trois États vont se retirer. Mais les populations de ces deux pays risquent de ressentir les effets de ces retraits, surtout en matière de développement et d'accès à des opportunités offertes par la coopération, par exemple, de la francophonie.
Oui, mais enfin, certains vous diront, mais pas de problème, vous savez, certes, la coopération au niveau de l'éducation se poursuivait, même si ces pays étaient suspendus de la francophonie, mais on peut se tourner vers d'autres partenaires qui nous fourniront le même type de coopération.
Bien évidemment, Juan, aujourd'hui, ils ont raison, ces États, Mais nous allons demander peut-être à l'OIF d'être moins politique. Moins politique, s'il faut prendre des décisions à l'encontre de tel et favoriser d'autres. Moi, je pense que l'OIF doit beaucoup plus se focaliser sur ses missions. Les missions principales, qui est peut-être de soutenir l'enseignement du français, renforcer la capacité et initier les initiatives culturelles, éducatives et sociales. Voilà, à soutenir le développement économique et social, parce qu'aujourd'hui, on parle des valeurs démocratiques au sein de l'OIF. Vous prenez par exemple le Cameroun, où un président a mis plus de 40 ans, on ne parle pas de démocratie, il n'y a aucune alternance là-bas. Donc l'OIF ne peut pas sanctionner les autres et prioriser les autres. Aujourd'hui, le retrait est dû au mécontentement, le simple fait que l'OIF a su prendre des décisions. Lorsqu'en 2020, vous vous souvenez, il y avait eu des coups de force dans ces états-là. Donc l'OIF doit changer sa politique.
Donc moins de politique.
Moins de politique.
Moins de politique et plus de culture, de coopération, coopération pour le développement et coopération économique également. Merci à vous. Bonne journée au Tchad. Je pourrais passer la matinée à lire les commentaires WhatsApp et Facebook, mais priorité au standard. Guillaume, à Semepodji au Bénin, bonjour.
Bonjour.
Vous ne comprenez pas la position des trois États de l'AES?
Bien sûr, je ne bataille pas l'opposition. Je ne bataille pas du tout l'opposition parce que je me suis dit, mais écoutez, vous quittez une communauté, vous partez avec toute une culture, une langue, vous partez avec tout ça. Est-ce vrai? Si c'est vrai, alors, qu'est-ce qui reste à votre peuple? Qu'est-ce que vous laissez à votre population? Vous la laissez à qui? Alors, donc pour moi, j'estime que c'est une décision qui n'a pas été bien mûrie. C'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait fausse parce que lorsqu'on compare le cas de la Guinée, par exemple, on peut se dire, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Mais n'empêche. Qu'est-ce qui reste à notre peuple? C'est ça qui est le plus important. Surtout ne pas confondre, ne pas mélanger les choses. On ne doit pas mélanger les choses. Est-ce que le peuple se retrouve dans cette décision? Je crois que non.
Bon, en tout cas, le peuple n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, en tout cas d'être dans les instances de décision pour savoir s'il fallait oui ou non quitter la francophonie. Mais une fois que vous avez dit cela, le départ sera acté dans 6 mois. Hein, c'est ce que prévoient les statuts de l'Organisation internationale de la francophonie. Comment voyez-vous la suite, Guillaume?
Moi, je vois la suite vraiment catastrophique. Hein. Je veux bien voir comment ça va se passer. Parce que j'imagine, s'ils quittent, quelle langue ils vont utiliser des impôts communiqués? Voilà, ça bon. C'est la seule question. Ils vont communiquer comment? Avec les autres peuples.
Ouais.
Voilà, bien.
Bon.
Parce que si on quitte avec la langue, hein, on va pas quitter la francophonie et puis continuer pas à utiliser le français.
Bah pour l'instant, à preuve du contraire, dit un auditeur sur WhatsApp, les écoles au Mali, au Burkina Faso et au Niger continuent d'enseigner le français ce matin à l'heure à laquelle nous parlons. Merci à vous, bonne journée. Ali, il nous reste 2 petites minutes, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs et bonjour aux hommes de l'ombre.
Merci de penser à nos amis techniciens. Ali, vous êtes à Niamey, vous disiez au standard, c'est une décision regrettable.
Oui, le regret c'est que l'ancêtre de l'OIF, qui est la société, l'Agence pour la coopération culturelle et technique, a été créée à Niamey le 20 mars 1970. Avec la pleine implication du premier président de la République du Niger.
Oui.
Maintenant, l'autre regret,
Amani Diori, oui, président du Niger, effectivement, à l'époque, c'est sous son impulsion que l'OIF a vu le jour.
Vraiment, vraiment. Et si les gens savaient son implication, on n'a pas le temps de le dire, mais véritablement, il a été l'artisan de l'OIF. À l'époque, à CCT. Maintenant, l'autre aspect, c'est que c'est une Rwandaise qui signe pour nous suspendre le 19 décembre 2023. Ça, moi, quand j'avais vu ça, j'étais sidéré. J'ai dit, mais écoute, une Rwandaise qui donne son français à un accès anglophone ne peut pas quand même suspendre quelqu'un qui a la copie originale de l'acte constitutif de la CCT et nous reprocher un certain nombre de choses.
Ouais, c'était dérangeant pour vous. En même temps, il y avait un coup d'État. Et la francophonie, depuis 2000, condamne les coups d'État et les violations graves des droits humains. Je suis désolé de vous interrompre, Ali, mais vous savez quoi? On prolonge le débat vendredi, si vous le souhaitez. Vendredi, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Et on aura, à mon avis, l'occasion de revenir sur la décision de ces 3 pays de l'AES. On revient demain, 8h10, TU. Prenez soin de vous.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Laurence Garcia.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, vous allez nous parler ce matin des ruptures amoureuses.
Eh oui, on a tous vécu un jour une histoire d'amour qui finit mal, très mal, même vous Juan, j'imagine. À quel moment faut-il consulter pour éviter une vraie dépression? Comment tourner la page et rebondir sans crainte d'un nouvel échec sentimental? On en parle dans 10 minutes, bon, après le journal.
Je viendrai témoigner peut-être.
Exactement.
Bonne émission Laurence.